Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Myhre et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Sophie Potier, qui est maman d'un jeune garçon touché par cette maladie et présidente fondatrice de l'AFSMI, l'Association française du syndrome de Myhre. Madame Potier, bonjour.
Bonjour.
Alors Madame Potier, on vient de le dire, vous êtes maman d'un jeune garçon qui est touché par cette maladie extrêmement rare, le syndrome de Myhre. Quand et comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie ?
Alors, je dirais que le premier symptôme est venu à 5 mois de grossesse, où on m'a précisé que Raphaël, en fait, avait un retard de croissance. Un petit peu inquiète, les médecins ont décidé de m'arrêter. Et donc, j'ai poursuivi la grossesse de cette façon, donc alité. Donc, Raphaël grandissait peu dans mon ventre, mais il grandissait quand même. Donc, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout de la grossesse. Donc Raphaël, en revanche, est né par césarienne en urgence le 15 juin 2010, à la suite d'un hématome rétroplacentaire qui ne s'était pas résorbé depuis le début de la grossesse. Dès le départ, j'étais très heureuse parce que Raphaël était né quand même, donc il a un grand frère, Antoine, mais à la suite de la naissance d'Antoine, j'ai fait 3 fausses couches et une grossesse extra-utérine, donc Raphaël était attendu vraiment comme le messie. Donc j'étais très heureuse, mais je voyais quand même que Raphaël avait une petite tête d'oiseau. Enfin voilà, c'est comme ça que je le décrivais et je trouvais qu'il ressemblait ni à son grand frère, ni à son papa et ni à moi. En revanche, le pédiatre, lui, a trouvé que Raphaël avait des doigts courts et trapus et a prescrit de nombreux examens. Donc une échographie cardiaque, abdominale, des radios de tous les membres, une consultation génétique. Et par la suite, Raphaël a attrapé donc la varicelle. Il avait 15 jours de vie et puis on avait l'impression qu'il n'avait aucune défense immunitaire. Ensuite, il a développé un RGO interne et il s'est fait opérer du cœur à 7 mois d'un canal artériel persistant qui avait été diagnostiqué grâce à l'échographie cardiaque.
Et quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées à ce moment-là ?
Alors, aucune hypothèse donc de la part de la généticienne qui constatait que Raphaël avait effectivement un faciès un peu différent, mais elle n'avait pas d'idée sur la question, puisqu'elle l'a suivi quasiment dès sa naissance. En revanche, quand les mois ont passé, moi, je voyais bien que Raphaël n'évoluait pas comme son frère. Il avait un retard vraiment dans son développement. Donc, j'en avais fait part à mon entourage, à les médecins. Mais je sentais que je n'étais pas forcément entendue et écoutée. Raphaël ne percevait pas les dangers, il avait un strabisme, donc on est allé consulter un ophtalmo qui nous a parlé, de la première fois c'est elle, d'autisme, mais plutôt Asperger, puisque Raphaël avait développé une obsession pour les chiffres et les lettres à ce moment-là, vers 18 mois. Et puis l'entrée à l'école fut assez décisive, puisque dès le premier jour d'école de Raphaël, donc il avait 3 ans et 3 mois, l'instit nous a dit qu'il ne souhaitait pas accueillir Raphaël les après-midi, et ça jusqu'à la fin de l'année. Il nous a conseillé vivement d'aller voir un pédopsie. Donc un premier diagnostic d'une pédopsychiatre rapide, d'autisme atypique. Ensuite, un psychologue clinicien nous a dit qu'il n'y avait aucune forme d'autisme chez Raphaël. C'était peut-être plus un problème d'éducation. Un petit peu perdu, j'ai été voir le centre ressources autisme qui l'a diagnostiqué au bout de 6 mois d'examen un trouble envahissant du développement non spécifié. Suite à ça, la généticienne a également fait des recherches et notamment le syndrome de Digeorge et puis beaucoup, beaucoup plus tard, le syndrome du X fragile.
Alors, de très nombreux diagnostics qui ont été évoqués. Combien de temps a duré cette errance diagnostique et comment avez-vous vécu cette période ?
Alors, l'errance diagnostique a duré 10 ans. Donc, c'était très, très long pour toute la famille. Mais c'est vrai que Raphaël avait tellement de consultations médicales. Est-ce que Raphaël est suivi en ORL ? Je l'ai pas précisé, mais Raphaël a une déficience auditive bilatérale qui a été diagnostiquée pendant ces 10 ans d'errance. Il était également suivi en cardio suite à ce canal artériel persistant. mais il était également suivi en endocrinologie, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais dès l'âge de 3 ans, le médecin généraliste nous a vivement conseillé d'aller consulter un endocrinologue, puisque Raphaël ne rejoignait plus la courbe de croissance, et il restait toujours en deçà des moyennes. Et donc, il a commencé un traitement d'hormones de croissance à 4 ans. Et puis, ben, en parallèle, bien sûr, il y avait ces troubles autistiques qu'il fallait gérer au quotidien, parce qu'il y a vraiment un trouble de l'attention, un trouble du sommeil, donc un retard dans les apprentissages, notamment dans l'autonomie, un problème d'interaction, de communication. Et donc, pour essayer d'aider Raphaël au mieux, dès son plus jeune âge, il a été suivi en orthophonie, en psychomotricité, et j'ai fait intervenir également une personne qui avait une formation ABA.
Et au final, Madame Potier, comment le diagnostic de la maladie a-t-il été confirmé ?
Donc, la généticienne, lorsque Raphaël a eu 5 ans, nous a dit de revenir la voir dans 5 ans, lorsqu'il aurait 10 ans, pour permettre peut-être d'avancer sur un diagnostic, puisqu'elle elle percevait quand même que tous ces troubles et tous ces problèmes médicaux ne pouvaient pas être seulement des coïncidences. Puisque, en plus, Raphaël, donc entre 5 et 10 ans, un diagnostic de déficience intellectuelle a été posé, mais également, il avait des problèmes, notamment un doigt à ressaut. En fait, c'est un doigt qui se bloque. Voilà. Et donc, tout ça venait quand même, ça faisait beaucoup pour un seul petit bonhomme. Et donc, on a repris contact avec elle lorsque Raphaël était dans sa 10e année. Elle nous a proposé un séquençage de l'exome. Donc c'est un examen sous forme de prise de sang, hein, pour vraiment aller très très loin dans les recherches génétiques, puisque le karyotype n'avait pas réussi à mettre en évidence une maladie. Et donc au bout de quelques mois, enfin plusieurs mois même, puisque le séquençage a été effectué en février, et nous avons eu les résultats en décembre, donc on nous a annoncé que Raphaël souffrait du syndrome de Myhre.
Et à la suite de ce diagnostic, quelle est la prise en charge de votre fils aujourd'hui ?
Pour commencer, c'est vrai que ça a été un choc, en fait, que d'apprendre ce diagnostic. Donc, il a fallu, dans un premier temps, pour ma part, faire des recherches, puisque la généticienne ne connaissait pas la maladie. Elle nous a donné quelques informations qui provenaient notamment d'orphanettes, mais malheureusement, il y avait très, très peu d'informations et on voyait bien qu'il y avait des lacunes, puisque les symptômes de Raphaël n'apparaissaient pas sur cette fille. De mon côté, j'ai fait des recherches sur Internet. Alors, je sais qu'il faut toujours faire attention, mais là, je me suis dirigée vers la fondation MIR, qui est une fondation américaine. Et c'est eux qui m'ont conseillé, en fait, de consulter le professeur Cormier-Der à l'hôpital Necker. Donc, j'ai pris contact donc, avec cette généticienne. Et nous avons eu un premier contact pendant le confinement, donc en visio, qui nous a permis d'être rassurés, mais aussi de mieux comprendre ce qu'est la maladie et de prendre rendez-vous avec d'autres spécialistes, puisque la maladie touche également les poumons et nous n'avons jamais consulté un pneumologue. Donc, ça a été l'occasion de se dire, bon, on continue déjà les prises en charge que l'on a actuellement, donc c'est-à-dire endocrinologue, ORL, ophtalmo, j'en oublie sûrement, et de continuer donc de revoir un cardio, ce que l'on avait un petit peu mis de côté, de voir un pneumo et de continuer et de reprendre des consultations en pédopsychiatrie que l'on avait un petit peu abandonné compte tenu des diagnostics différents que l'on avait pu avoir, même si Raphaël avait toujours un suivi au centre ressources autisme ponctuel. Et de continuer tout ce qui est paramédical, continuer l'orthophonie, la psychologie ABA, et puis la psychomotricité. On nous avait vivement recommandé aussi l'ergothérapie.
Alors aujourd'hui, vous êtes fondatrice et présidente de l'association AFSMI, l'association française du syndrome de Myhre. Quelle a été votre démarche ?
Donc ce diagnostic a été un coup de massue pour ma part. J'ai vraiment sombré. Donc j'ai été en dépression pendant 5 mois, donc en arrêt maladie, Et j'étais suivie moi-même par un psychologue, une psychologue, donc au centre génétique, là où Raphaël était suivi donc, pendant toute son enfance, et par une psychiatre. Et pendant ces mois, j'ai beaucoup avancé et je me suis dit que finalement, je n'avais pas envie que d'autres parents subissent ce que j'avais subi, donc 10 ans d'errance médicale. Et être perdue à l'annonce du diagnostic parce que maladie orpheline très rare, voilà. Donc je me suis dit, aider les autres, finalement, ça pourrait peut-être m'aider moi aussi. C'était devenu voilà, quelque chose d'utile, je pense, et pour les autres et pour moi. Donc du coup, je me suis renseignée, aucune association existait en France. Et puis la fondation américaine m'a poussée en ce sens, en me disant qu'effectivement, ils souhaiteraient un partenariat avec cette association. Et donc, je me suis dit, bon, je me lance dans l'aventure. Et donc, cette association, elle existe avant tout pour aider et accompagner les parents d'enfants porteurs de ce syndrome, mais aussi ces enfants et adultes qui en sont porteurs.
Et quels sont les objectifs de l'association et ses projets concrets ?
Alors, à court terme, c'est vraiment sensibiliser le corps médical, diffuser au maximum des informations sur la maladie, donc auprès des pédiatres, des généticiens, des obstétriciens, parce que finalement, ce faciès, cette tête d'oiseau que je vous expliquais au départ, est vraiment, je pense, un symptôme clinique qui peut être détecté dès la naissance. Et donc accompagner au mieux ces enfants et surtout, enfin aussi les parents à l'annonce de ces diagnostics, voilà. Et donc diffuser aussi l'information auprès des maisons du handicap, parce que chaque département a un petit peu son fonctionnement. Et un dossier MDPH n'est pas simple pour les parents. Lorsqu'on apprend un diagnostic, on est déjà un petit peu sonné. Voilà, c'est un deuxième combat qui commence. Et donc, si on peut accompagner au mieux les maisons du handicap, mais aussi les parents à remplir ce type de dossier, je pense que ça peut être un premier objectif à atteindre. Sur le long terme, eh bien, on voudrait construire des logements pour ces adultes handicapés qui sont porteurs du syndrome de Myhre, mais pas que, hein, bien sûr. Et puis donc renforcer ce partenariat que nous avons avec la Fondation du syndrome de Myhre.
Alors on arrive à la fin de notre entretien, Madame Potier. Pour conclure, si vous aviez un message à faire passer au nom de l'association, quel serait-il ?
Eh bien, ce message s'adresserait peut-être en premier lieu donc au corps médical, mais plus spécifiquement aux psychologues et aux cliniciens. Donc, de penser aux maladies génétiques avant de poser un diagnostic en quelques minutes auprès des parents. Et peut-être de penser à adresser ces enfants à d'autres spécialistes pour que cette errance diagnostique n'ait plus lieu.
Eh bien, merci mille fois, Madame Potier, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître cette maladie extrêmement rare qu'est le syndrome de Myhre. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram Rare à l'écoute ou notre site internet www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pouvez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite !